Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
Et oui, 18h40, on va donc défaire le monde maintenant avec Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bref, toute la bande, l'info avec un autre regard. On va vous apprendre plein de choses, c'est promis, jusqu'à 19h. Le programme, Cyprien.
Ce soir, direction le refuge pour animaux. En écoutant On défait le monde, vous comprendrez pourquoi chiens et chats sont devenus des enjeux de campagne électorale. Au menu également, Speedy Jean-Louis Borloo, le vaccin mal-aimé des Nobel et un petit tour dans les vignes pour les vendanges. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Générique mythique, 30 millions d'amis, les animaux au centre de toutes les attentions en vue de la présidentielle. Avec ce matin, la visite d'Emmanuel Macron dans un refuge de la SPA. Faut dire qu'avec 14 millions de chats et 8 millions de chiens, le Français aime les animaux de compagnie.
Et si on prend en compte les petits mammifères, les reptiles et les poissons rouges, c'est carrément un foyer français sur deux qui possède un animal domestique.
On a donc voulu comprendre comment les politiques avaient fait du chien ou du chat un animal de campagne. Pour ça, on a contacté le publicitaire Franck Tapiro, qui résume la situation avec un exemple, celui de François Mitterrand.
Bon, on se rappelle du chat de Mitterrand, c'est Labrador. Et on se dit, et c'est vrai que Mitterrand, je me rappelle très très bien, des gens qui critiquaient Mitterrand, mais du matin au soir, mettaient un moment de pause quand on le voyait avec son chien. Quand il parlait de son chien, quand il parlait de son Labrador, il avait les larmes aux yeux. D'abord, il en parlait comme une personne, et il en parlait de façon très belle. Et c'est drôle parce que tous les hommes politiques comme ça qui ont un rapport particulier avec des animaux, on leur reproche tout, mais ce moment-là, ça les sauve.
Sauvé par la présence de l'animal. D'ailleurs, petit quiz là, comme ça. Comment s'appelait le Labrador de Mitterrand?
Baltique.
Baltique. Bonne réponse de Céline Landreau.
Je vous ai laissé un peu de temps, les garçons.
Merci. Il a d'autres exemples, Franck Tapiro?
Ben oui, du côté du Rassemblement National.
Marine Le Pen, qui a joué sur les chats pendant 2 ans, et qui jouait sur les chats parce que sur Internet, justement, il y avait une tendance à mettre des chats en avant. D'ailleurs, on voyait les vidéos, les photos de chats exposés sur Internet, et donc elle a récupéré cette tendance avec son amour, je crois qu'il est totalement sincère pour les chats. Donc, pour vous dire que tous les politiques doivent à un moment montrer qu'un cause animal est important, mais montrer surtout qu'ils sont proches des considérations des Français.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent, les politiques, en s'affichant avec leurs animaux? Ils veulent montrer qu'ils sont comme tout le monde, c'est ça?
C'est exactement ça, mais alors ça va même un peu plus loin. Ça touche directement les lecteurs, enfin, l'électrice surtout, écoutez bien.
Montrer qu'on a un cœur, montrer qu'on est humain, parce que ça ajoute à l'émotionnel, et vous savez très bien qu'une campagne présidentielle se joue sur l'émotionnel. Alors, un candidat qui n'aime pas les animaux, il est mal barré. Je dirais même que c'est impossible. C'est absolument impossible. Il faut aussi, ça c'est important de le dire, rappeler que la cible féminine est très sensible à la relation justement avec les animaux. Donc encore une fois, les femmes sont particulièrement plus touchées, plus émues par des messages mettant en scène les animaux que les hommes. Et donc, on sait l'importance, bien entendu, de la cible féminine dans une campagne présidentielle. Voilà pourquoi il ne faut laisser en rien cet aspect-là.
Donc autant vous dire que d'ici avril, on n'a pas fini d'assister au défilé de politique avec des chihuahuas dans les bras.
C'est sûr.
Et des balades dans les refuges.
RTL. Sous les radars.
Allez, tous les soirs, dans Défait le Monde, une info passée inaperçue.
Et alors qu'on vous parle beaucoup de la hausse des prix en France, du retour de l'inflation... Ouais. Eh bien, vous nous apprenez, Céline, qu'il y a un pays où cette histoire d'inflation a, comment dire, quelque peu dérapé. Quoi.
Oui. Quelque peu.
Parce que chez nous, en France, on flirte avec les 2% d'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix, on le rappelle. Mais au Venezuela, elle devrait atteindre 1600% cette année. Oui, vous avez bien entendu, 1600%. Et pour tenter de lutter contre cette hausse vertigineuse des prix, eh bien, le gouvernement a décidé de réévaluer sa monnaie. Un nouveau bolivar avec 6 zéros en moins. Rappelez-vous, pour les moins jeunes, lorsqu'en 1960, on est passé des anciens aux nouveaux francs, on a enlevé 2 zéros. Et ben là, c'est pareil, mais avec 6. En clair, la baguette qui coûtait jusqu'à jeudi dernier 7 millions de bolivars n'en vaut aujourd'hui plus que 7.
Bon, donc terminer les valises de billets pour aller acheter une baguette. Mais ça peut vraiment sauver l'économie, cette mesure?
Ah ben, c'est pas sûr du tout. La preuve, c'est que c'est la troisième fois que le pays prend une telle mesure en 13 ans. Depuis 2008, le bolivar a quand même perdu 14 zéros, oui. Et si dans un premier temps, ça facilite évidemment les transactions, ouais. Et bien pour le reste, ça change pas grand-chose. Tant que l'inflation reste si forte, le pouvoir d'achat des salariés continue de s'évaporer. Aujourd'hui, on estime que 94% de la population au Venezuela vit sous le seuil de pauvreté.
L'info était effectivement passée sous les radars. Merci Céline. On va marquer une petite pause et ensuite, on va continuer de défaire le monde dans RTL Soir. Avec la première info pour briller tout à l'heure au dîner, on va parler... Prix Nobel, à tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
L'info pour briller au dîner, parce que le dîner approche, il est 18h48 et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. La voici, la première info dont vous allez pouvoir vous servir autour de la table tout à l'heure. Nous allons évoquer le prix Nobel de médecine parce qu'il a été décerné en fin de matinée.
Oui, un prix qui n'a pas du tout récompensé les vaccins anti-Covid, Laurent. Oui,
deux Américains spécialistes du toucher l'ont remporté. Alors, rien à voir. Les bookmakers de la médecine avaient pourtant misé sur les vaccins ARN messager contre la COVID-19.
Hein. Voilà. Bien sûr.
Alors, de toute façon, c'était presque plié d'avance, Cyprien. En 120 ans, le prix Nobel de médecine n'a récompensé qu'un vaccin. Un seul chercheur, le scientifique sud-africain Max Teller en 1951 pour sa découverte du vaccin contre la fièvre jaune. Céline Landreau le savait. Alors le statut des Nobel est clair, le prix de médecine ne peut être attribué qu'à une découverte. Exemple, l'ARN messager a déjà obtenu son prix Nobel en 1965.
Alors c'est pas pour vous piéger, mais Louis Pasteur, il n'a pas découvert le vaccin contre la rage.
Vous avez raison, c'est le grand oublié de l'histoire des prix Nobel de médecine, sauf que Louis Pasteur est mort en 1895, 6 ans avant l'invention de la prestigieuse récompense.
Ça c'est pas de bon.
En 1901.
On découvre aussi, parce qu'il y a plusieurs infos pour briller à l'intérieur de l'info pour briller, que l'ARN messager, ça date de 1965.
Exactement. Ça fait deux infos.
D'accord.
Ça.
Incroyable. Deux infos.
Une équipe française
deux fois plus de chances de gagner. Merci beaucoup, Laurent.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et 18h49, c'est l'heure où elle tranche. Chaque soir, Céline Landreau désigne le winner ou le loser du soir.
Avec un grand retour ce soir, c'est un winner. Jean-Louis Borloo, partout, pour parler de Bernard Tapie, jusqu'à braver les turpitudes de la circulation parisienne. Et ça, c'est quelque chose.
Oui, parce que ce matin, le réveil a dû sonner tôt chez Jean-Louis Borloo. Pas de temps à perdre pour l'ancien ministre. Il était attendu dans nos studios de Neuilly-sur-Seine. Et à 7h44, vous avez pu entendre sur votre antenne...
Bonjour Jean-Louis Borloo.
Bonjour.
8 minutes d'interview face à Alba Ventura pour rendre hommage à Bernard Tapie jusqu'à 7h52 donc. Et pas le temps pour lui d'écouter Philippe Cavrivière, non. Car il lui fallait courir et parcourir vite, très vite, les 7 km qui nous séparent des studios de France 2.
Il est exactement 8h15, c'est l'heure de votre interview d'actualité. Thomas, vous recevez l'ancien ministre Jean-Louis Borloo.
Et là, c'était reparti pour 8 nouvelles minutes d'interview, montre en main et à la fin...
Merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'être venu évoquer votre ami Bernard Tapie, merci à vous.
Ah, à peine le temps de dire au revoir parce qu'il est déjà debout, prêt à repartir. Et 10 minutes plus tard, à 8h33 sur BFM TV cette fois...
Jean-Louis Borloo, bonjour.
Trois matinales en moins d'une heure pour l'invité, que tous s'arrachaient, et forcément, ça n'a pas loupé. 7h45, RTL.
Ambition.
Tout à fait.
8h16, France 2.
Vous vous souvenez de cette énorme émission Ambition?
Ambition sur BFM.
8h43, BFM TV.
Vous vous souvenez de cette grande émission Ambition?
Oui, à force, on commence à s'en souvenir.
Il avait obtenu un cachet gigantesque.
Ah, un cachet gigantesque pour Bernard Tapie sur RTL et sur France 2.
La télé avait mis un énorme cachet pour qu'il puisse faire ça.
Et sur BFM, il était comment le cachet?
Énorme.
Énorme aussi, ok. Tout va bien, voilà donc la suite de l'histoire.
Vous savez où est allé le cachet?
Non.
Il exigeait que ce cachet soit à l'époque versé à la Fondation Abbé Pierre. Il appelait Marie-France Brière, la productrice, lui a dit...
Cet argent, tu le donnes à la Fondation Abbé Pierre.
Mais je peux pas, c'est pas la comptabilité, tu te démerdes. Ça, c'est jamais su. Je sais même pas s'il apprécierait vraiment que je dise ça ce matin. J'ai pas beaucoup dormi.
Bah oui, fatigué Jean-Louis Borloo, et on le comprend. Mais on salue cet hommage appuyé à celui qu'il appelait son frère. Et ça valait bien un marathon entre les bouchons dans les rues de Paris.
Effectivement, et on était ravis d'entendre cette anecdote, en tout cas ce matin sur RTL. On le remercie Jean-Louis Borloo d'être venu à 7h45 au micro d'Alba Ventura. Nous étions les premiers ce matin. Allez, une petite pause, et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Nous allons prendre un peu de hauteur, si vous le voulez bien. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et oui, 18h54, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et voici une seconde info pour briller au dîner.
Et pour celle-là... Arthur, vous nous emmenez dans les étoiles, puisqu'aujourd'hui... Thomas Pesquet, notre héros, a pris les commandes de l'ISS.
Mais oui, Thomas Pesquet, il est peut-être commandant, mais c'est un petit joueur à côté de Valéry Polyakov, ce cosmonaute russe. Il a passé 437 jours et 18 heures d'une traite à bord de la station Mir. C'est le record absolu du vol spatial le plus long.
437
jours.
C'est long,
C'est entre le 8 janvier 1994 et le 22 mars 1995. En 14 mois, Polyakov, il a tourné 7000 fois autour de la Terre. Ça fait pas mal de kilomètres parcourus dans l'espace, plus de 300 millions. Rendez-vous compte, c'est un peu l'équivalent d'un aller-retour entre la Terre et le Soleil, tout simplement.
Il doit avoir de sacrés miles, hein, ce polyacre. Ouais.
Il a pas mal de miles. Et c'est une performance d'autant plus remarquable que l'odeur dans la station Mir, elle était pestilentielle. Un mélange de pieds moites, de dissolvants et d'essence.
Et pourquoi ?
Pourquoi ?
Et ben, ça sentait trop mieux, ce qui est de la moisissure, en plus.
Ah, en plus, c'est de mauvaise qualité.
C'était de la moisissure.
Et ben, excellente info pour moi.
Et on se lave pas tout le temps aussi.
Au dîner, je vais voter Polyakov. Désolé Laurent, ne me regardez pas comme ça.
C'est comme les vaccins qui n'empêchent quelqu'une.
Laurent, ça n'a rien de personnel.
Je vous en prie, je pose la question.
Marche ou rêve ?
Et tous les soirs avant 19h, le joli coup de fil sur RTL pour mettre en valeur vos idées et vos projets. Ce soir, on va faire un petit tour dans nos vignes.
Oui, cette saison, direction la Dordogne pour aller faire les vendanges, Laurent.
Oui, on vous a parlé récemment sur RTL de la pénurie de main-d'œuvre, des milliers d'offres d'emploi non pourvues, des difficultés de recrutement pour les entreprises. Anthony, viticulteur, a eu une idée originale pour trouver des saisonniers à l'occasion des vendanges d'octobre. Un clip décalé. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Et votre initiative cartonne, vous avez eu les premiers retours hyper rapidement.
Oui, effectivement. Pour recruter, j'ai eu l'idée de faire une vidéo de recrutement plutôt qu'une petite annonce de recrutement. Très très vite, j'ai eu énormément de retours de gens qui m'ont contacté pour participer aux vendanges sur mon exploitation.
Et plus de 20 000 vues sur votre page Facebook. Vous êtes inspiré de l'influenceur Jean-Pierre Fanguin et sa réplique.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Voilà. Alors, on
c'est
va...
culte, ça.
C'est culte, forcément, ça nous parle à tous.
C'est malin.
Et on va écouter le début de votre clip.
Salut à toi, jeune vendangeur, ou moins jeune d'ailleurs. Et au féminin, c'est aussi bien. Savais-tu que 37% des gens qui viennent faire les vendanges repartent avec un mal de dos ou une coupure au doigt? Et pour les plus malchanceux, avec les deux? Alors, c'est toi aussi tu vas avoir la chance de pouvoir porter cette tenue saignante que même chez les bobos, ils ne font pas.
Et vous le précisez sur Facebook, Anthony, à visionner avec une bonne dose d'humour et de dérision.
Oui, c'est mieux quand même.
Ouais, une énorme dose d'humour, oui, tout à fait.
Ça n'a pas rebuté les candidats?
Non. Alors, il faut savoir que les pourcentages que j'annonce sont des pourcentages fictifs déjà.
D'accord.
Mais malgré tout, oui, c'est des désagréments qui effectivement arrivent, hein, tout à fait. Hein, mais bon, après, c'est pas aussi courant quand même. Hein.
Et donc, vous avez eu un afflux de demandes après ce clip. Vous aviez besoin de quoi? D'une dizaine de personnes? Vous avez eu combien de candidatures?
Oui, j'avais besoin d'une dizaine de personnes que j'ai eues en 48 heures.
Ah ouais.
Depuis, je compte plus les gens qui m'appellent. Alors, j'en ai pas eu des centaines et des centaines, mais plusieurs dizaines. Et maintenant, en fait, je fais le bonheur de mes voisins vignerons qui sont aussi en manque de main d'œuvre. Et je leur transmets les coordonnées de toutes ces personnes qui se sont décidées à vouloir faire les vendanges.
Ça, c'est très bien parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de saisonniers pour les vendanges. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui hésitent peut-être à se lancer dans cette aventure parce que vous n'êtes pas le seul vigneron à avoir besoin de main-d'œuvre?
Ce que je leur dirais en premier, c'est de mettre de côté les préjugés. C'est un moment vraiment extraordinaire où il y a généralement de la bonne humeur, il y a un esprit d'équipe. En général, voilà, ça laisse des très bons souvenirs. Donc, tous les jeunes qui sont en recherche d'emploi ou les moins jeunes, des fois les jeunes retraités qui s'ennuient chez eux, je leur dis faites l'expérience et vous verrez.
Eh bien, merci beaucoup Anthony de nous avoir présenté votre clip. Vous pouvez retrouver la vidéo d'Anthony sur la page Facebook Domaine de Grangeneuve. Merci à vous.
Et bonne vendange.
Merci beaucoup à vous tous.
Merci Anthony. Et si comme Anthony, vous avez envie de nous parler de vos projets, de vos idées, de vos initiatives, Cyprien, on fait comment?
La page Facebook ou le compte Twitter dont défait le monde, Laurent attend vos messages.
Voilà, Laurent.
Et quand Facebook fonctionne.
Nous aussi d'ailleurs. Oh. Quand Facebook fonctionne, il y a une panne de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, de Messenger. Là, en ce moment, on va en parler dans quelques secondes dans le journal de 19h.
Il y a le 06 de Laurent, mais je le garde pour moi.
Vous le gardez pour vous. On parle des pannes de réseaux sociaux dans le journal qui arrive. Et vous, on vous retrouve demain.
À demain.
18h40 sur RTL de RTL Soir.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.